This shit is relevant.
Show dumb fucker.
Deaf to a knucklehead.
Thank you, Master Bay.
This shit is relevant.
Show dumb fucker.
Deaf to a knucklehead.
Thank you, Master Bay.
This shit is relevant.
Show dumb fucker.
Deaf to a knucklehead.
Thank you, Master Bay.
This shit is relevant.
I slept too little and drank too much.
What's my diagnosis anyway? Get out of bed like this. Oh, Christ.
Rise and shine with CKUT 90.3 FM.
The Sleepwalker immersions into a world that awakes after dusk. Get ready, let's go. We're leaving in 5. An episode by CKET Radio, brought to you by Elena Meyer. Ils font vibrer les boîtes, les salles de fête, les sous-sols de Montréal. Ça commence en début de soirée, ça finit toujours aux petites heures du matin. As of now, they're students, business owners, musicians, Italian, Portuguese, French, Mexican, Filipino, American. Yet, they blend right in. They all love music. When I first started pitching the Sleepwalker around, the responses were pretty much the same. They told me they usually don't get recognition for what they do, and although they obviously are not seeking any, they told me it helped them think their music through, by producing sound and making people dance meant to them. In a way, they told me it helped them gain visibility as to what the future might look like. The truth is, we all go to their events, have an awesome time, listen to their music, buy their music. But who are they, really? I talked to a few of them for you. I thought you'd like to hear about them, too.
So let's try.
Oh, she's waiting.
Tu veux faire le jingle? Non, on va pas le jingle.
At least you have it. If it sounds good. Okay, let's just pack this, ready? Okay, but only like 2 bars, and then we go into. So.
I know. I think we should do more like a stab thing. Like we do 1, 2, 3. Fellas, keep tips. And if we all do it at the same time.
Ouais, je pense parce que like the lettre est trop compliqué.
Okay, fine. Alright, so we do a test.
Oh, je mange des cookies.
Hein.
Okay, let's do.
Okay.
Uno, dos, tres, and then we go.
Yeah. Wait, what key?
Well, just do. Just try to keep it straight tone. It doesn't matter. It'll harmonize. Okay. He's gonna bail.
No, but
he has the wrong one.
Bro, I swear you put another
just
cookie
count,
in your mouth.
Count.
Fella.
One.
Crunch.
Two. Three.
Okay, yeah, so that was the Fela Q-tips. It doesn't exactly roll off the tongue at first, but it does make a lot of sense. Here's Emiliano. He explained the process of picking a name for their crew.
Oh yeah, sorry, I got sidetracked. So, after we started doing a few events together, I realized that it was going to be a thing. Like, we had to be a collective. And I feel like the most difficult part to break through is, like, getting a name. And at this point, I, like, wanted to go with Max to Mexico and, like, do, like, a sort of, like, DJ tour in Mexico. Like, go just road trip around Mexico and DJ. I was like, oh, I wonder what, you know, what names we could use. And we were sitting one afternoon in the couch, just like scribbling names, like dama shit. We still have the piece of paper at home that was, we had Los Saqueadores del Wax. What else? help me out if you remember it.
Yeah, we had, the Wax Thieves and,
C'est ça, parce qu'en fait, il y a tout le temps Wax dans le nom, mais c'est le slang pour des vinyls. Genre, ça se dit Wax, genre. C'est ramène ta wax et ramène tes vinyles.
So, I would tell Max when I was trying to come up with the name, I was like, you know, I think it would be cool if we used the wax that is a synonym for vinyls. And like, I've always loved A Tribe Called Quest, and Q-Tip, who's part of A Tribe Called Quest, is his name is Q-Tip. And I can get why it can be metaphorical for like cleaning people's ears and letting them listen to music good. So I was like, you know, we could do like something on wax, something like Q-Tip, but I don't want to, you know, just take his name. Like, I want to make it something cool. And there's this guy from South Africa that's kind of the James Brown of South Africa, and his name is Fela Kuti, and he's very famous, and like all of his vinyls are very expensive, and he's like known in the so Fela Kuti, Fela Q-Tip. So you're like, okay, let's do it. I scribbled on a piece of paper like the idea I had in my head for like what our flyer would look like, and it was just like four guys, a truck, a desert in the back with like a cactus, me holding a bottle of tequila, him with a joint, him with a cigarette, him in the back of the truck with like speakers and like vinyls. And we all had like, I have like a box, and in the box it says wax. But the like meaning was like, we're like going into people's houses and like stealing their ear wax because we're Fela's Q-Tips. Yeah. But vinyls are also wax, and the vinyl crates where we carry our vinyls are like literal boxes. So it's, you know. We like talked to a friend of ours called Maui, who is an amazing designer, and so I said like, hey, like, I showed her this shitty ass picture of like what I drew, and I was like, you know, talked with her for a bit, and she like came up with like these like cartoon characters for each one of us.
C'est un peu à l'image de Gorillaz. Dans tous leurs clips, ils ont des petits personnages. Tu vois jamais leur tête.
Bref.
Mais en tout cas, c'est ça, chaque personne, nous quatre, serait représentée par un petit personnage de cartoon, hyper simple, hyper smiley, machin, où tu peux vraiment t'identifier, et puis dans tous les cas, ça reste, comme Max disait, chasse et pêche, ça a toujours été authentique, et même nous, ce qu'on a fait avec Jerem, avec Jack Storm, quand on faisait des soirées, ou quand on mixe, ou n'importe quand, en fait, on est tellement fatigué d'avoir tous ces trucs de, tu sais, Insta. Et puis la musique qui passe à la radio, les top 50, les trucs, c'est toujours des trucs. En fait, il en faut plus, il en faut toujours, il en faut plus vite. Et puis il faut toujours que ça soit des recettes. Parce que sinon ça marche pas, si ça se vend pas, ça fait pas de cash, c'est nul. Mais nous, c'est pour ça qu'on apporte vraiment une importance majeure à l'authenticité de ce qu'on fait. Et à faire en sorte que quand les gens ils viennent nous voir mixer, bah ça soit fun. Et c'est pas genre... le gars, il est derrière ses platines, un balai dans le cul, puis il est, tu sais, enfin, c'est vraiment genre ambiance pote, parce que, pourquoi pas, quoi, après tout, tu sais, les gens sont là pour s'amuser autant que nous, et avec les Fellas, c'est ça, c'est un truc où vraiment, on est une bande de quatre potes, et puis, on a de la musique, genre, on se lève le matin, on a nos synthés dans notre chambre, c'est le premier truc qu'on voit, et puis tu vas dans le salon et t'as plein de vinyles, et puis tu vas dans la salle de bain prendre ta douche, tu vois de la musique, genre, il y a de la musique tout le temps, partout, et puis, bah, c'est tellement une partie importante de notre vie. Et c'est un truc qui nous fait nous sentir juste... Tu sais, si on fait pas de musique pendant une semaine, tu te sens mal. Enfin, c'est un truc qui est vital à ce niveau-là. Et bah, partager, justement, comme Amy disait tout à l'heure, nos influences, et puis une histoire de la musique, surtout en mélangeant lui qui adore le disco. Nous, on aime un peu la house un peu plus violente. Max, il est plus un peu vocal et tout. Bah, mélanger tous ces styles, c'est vraiment aussi un partage. Et c'est là un peu où est l'authenticité du truc avec les Fela's Q-Tips, quoi. Et ça, c'est quoi? C'est right le petit... Ouais, c'est le petit dessin. On a une magnifique peinture d'Emiliano Chamon.
So Maui had to invent something from that.
Yeah, and the idea wasn't to copy it, right?
C'est quoi?
It's a concept.
Alors, on a un magnifique camion qui est un carré avec deux roues en dessous.
Basically, c'est un U-Haul.
C'est un U-Haul avec quatre gars qui ont des espèces de... Comment t'appelles ça? Des bandanas, des masques sur les yeux.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est parce qu'on est des wasps.
Et un beau soleil dans le coin, tiens.
Wax,
comme un gamin de 5 ans.
Et là, tu vois, ce dont Mathis vient de parler et ce qu'il vient de dénoncer un peu, bah, avec une idée comme celle-là, le plus important, comme il dit, et il faut le redire, et ça se redira encore, et on ne le redira jamais assez, mais c'est avoir du fun. C'est avoir du fun parce qu'il y a trop des fois, on voit des DJ, mais ils se prennent trop au sérieux, tu sais. Et c'est cool, enfin, tu sais, c'est ok, je sais pas, on a tous des mentalités différentes, mais nous. On essaye vraiment de réfléchir le moins possible. Genre vraiment de... Mais ça paraît con, mais voilà. Ouais, bien sûr, on s'est cassé la tête à essayer de mixer des vinyles et tout ça. Mais c'est parce... mais une fois qu'on y est arrivé, bah, y a un moment, faut... Comme il disait, voilà, faut desserrer, péter un coup, et pas te prendre au sérieux, parce que sinon, je sais pas, tu t'éloignes un peu de toi qui t'es vraiment, et qu'est-ce que t'as vraiment dans le bide, qu'est-ce que t'as vraiment au fond de ton cœur. Et là, du coup, bah, tu perds un peu de ton authenticité, tu perds un peu de cette magie-là. Et comme le disait tout à l'heure Amy, bah, voilà, la musique, pour moi, c'est un peu cette espèce de cadeau de va savoir pourquoi, mais le son, eh ben, il fait un truc. C'est un cadeau pour moi, la musique, je sais pas, c'est quelque chose de magique et ça se célèbre.
They're also known as Emiliano, Mathis, Max, and Jeremy. I actually met them through Jeremy, whom I met through work. We never had the same shifts, but I thought of him when I was brainstorming Sleepwalker. He did mention once his passion for sound. I didn't realize how passionate they were until we talked together in their living room. A living room overwhelmed by several couches, a wooden coffee table, cigarette packs, lighters, water in mason jars, cookies on the table. I fumbled with the mic cable for a while because we figured passing the mic every time one was to speak was just inconvenient. Jeremy had a longer cable, so we plugged it in. Good thing he came prepared.
Parce que, ouais, si tu veux, nous, de nous quatre, là, Max, Mathis et moi, on s'était rencontrés il y a 3 ans. Max, il avait créé avec 2 amis à lui de l'université un collectif qui s'appelait Chasse et Pêche. Donc, ils organisaient des soirées underground et il y avait de l'art dedans qui était présenté. Et bref, tu sais, c'était un truc tout nouveau. Et Mathis et moi, à l'époque, on était vraiment en train de se mettre les pieds dans la scène underground de Montréal. Et donc, quand on a vu qu'il y avait une nouvelle soirée, c'était le numéro 2. Et voilà, que ça finissait à 6h du matin, on était refait. On s'était dit, putain, on a trouvé une nouvelle soirée underground. Enfin, tu sais, c'était le truc cool, quoi. C'était un truc nouveau que personne connaissait. Avec Mathis, on va là-bas, on est refait. On se dit, on va passer une bonne soirée et tout. On arrive, c'était dans un appartement, genre un basement d'un des membres de Chasse et Pêche, justement. Et Mathis et moi, on commençait aussi à devenir DJ. Et la semaine auparavant, c'était la première fois où on avait mixé devant des gens dans un appartement de l'UDM. Et il y avait Zoé Berthelou, shout out à Zoé, qui faisait partie aussi de Chasse et Pêche. Et donc, à cette soirée, on arrive, on voit qui ? Zoé Berthelou, qui est à l'entrée et qui fait les vestiaires. Là, on voit Zoé, on dit « Oh, tu penses qu'il y a moyen qu'on mixe après, plus tard ?» Là, il y a le président de Chasse et Pêche qui revient, Victor, et qui nous dit « Ouais, les gars, bah, écoutez, je pense que vous pourrez mixer à partir de 4h, de 4 à 6, je pense, quand, voilà, quand il n'y aura plus trop de monde, ça sera ambiance un peu friendly, un peu familiale, pour y mixer. » Avec Mathis, on est saucé. On se dit « Putain, on va mixer à cette soirée, on est refait. » À un moment, il y a un des membres de Chasse et Pêche qui vient nous voir et qui nous dit « Oui, oh, les gars, vous êtes DJ. » « Ouais, ouais, on est DJ et tout. » Et il fait « Ok, les gars, faut que vous mixiez là et là, dans 30 minutes. » Mathis et moi, on était colocs, c'est comme ça qu'on se connaissait. Okay. Et bref, et après ça, du coup, bah ouais, on a gardé contact. Il y a eu des choses qui sont passées avec les visuels, il y a eu des choses qui sont passées avec les artistes, un peu avec le management, les trucs des soirées et tout. Et de manière générale, Max, Mathis et moi, on était vraiment les gars qui faisions le visuel de Chasse et Pêche, les vidéos pour Chasse et Pêche. Vraiment, on s'est beaucoup investi dans Chasse et Pêche. Et
côté
on a fait
créatif.
Ouais, tout le côté créatif. Zoé faisait je travaillais beaucoup aussi avec Zoé pour aller rencontrer les artistes et parler avec eux, les sentir, les mettre un peu à l'aise et tout ça. Enfin bref, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Max, Mathis et moi. Et bah après, bon, bah, Max, il a eu quelques problèmes avec l'université. Ouais. Et je vais lui laisser parler de ça parce que c'est son histoire à ce moment-là.
All right, I'm going to switch it up though. We're going to do some English over here. So, So yeah, I got kicked out of university after my second year. Chasse et Pêche was a big eye-opener to me, honestly. It was made me realize what I actually wanted to do in life, and it made me realize how much of a passion music is, because as a little backstory, I'm actually a economics degree student, and it's not fun at all. Music is what I want to do, so Chasse et Pêche was the gateway. It was the gateway drug for my music addiction. And with Mathis, Jeremy, and I, it really became a journey of working together, trying to push out our ideas. And the whole idea was to remain authentic, staying small, staying with the right people, being organized with the right people, and you just grow that way.
Donc c'est ça. Une fois qu'on était tous un peu en train de faire des trucs tous ensemble, à droite à gauche, on a déménagé avec Max dans un appart qui était l'appart de rêve. Donc dernier étage, vue sur le Mont-Royal, incroyable. Sauf que cet immeuble, il était censé, c'était quoi ? Dans, en un mois, ah, être oui. fini, être tout neuf, être génial. Sauf que ça fait 6 mois qu'on habite dans ce truc et que tous les matins à 7h, c'est des marteaux-piqueurs. Il y a des coupures d'électricité, des coupures d'eau. Et on n'en peut plus. Et vraiment, tout le monde dans l'immeuble en peut plus de cet appart. Et on a envie de se barrer, mais on peut pas parce qu'il y a des trucs de bas, etc. Et un matin, on se lève à 7h, comme d'hab avec Max, parce qu'on est réveillé par les travaux. Et on descend chercher un café et on revient et on voit un mec en bas qui achète un mixeur. De DJ, et genre un selling, mixeur de... Tu le vendais
yeah,
ok, donc il vendait un mixeur. Et je sais pas, on voit juste ce truc là et c'était le même mixeur qu'on avait en haut. Et il se trouve que c'est de la grosse merde. Et donc... et donc on dit putain bah merde, il est en train d'acheter un mixeur de merde, on va lui dire. Et puis bref, on attend...
So vraiment
so
et on attend, et puis je sais pas, il vendait son truc, du coup on fait bon allez tant pis, on remonte. Et puis là, il arrive, il court dans l'ascenseur, on retient la porte, on fait « Yo mec, tu voulais acheter ce mixeur, mais prends-le pas, c'est de la grosse merde. » Puis là, on commence à parler « Eh, vous avez des vinyles ? Ouais, je mixe. Ah, je mixe pour ce collectif. Ah, nous, c'est ça. » Puis après, on se rend compte que bah, le monde est petit. Et puis, on fait la visite de tous les apparts respectifs.
De tous les studios.
C'est ça, des home studios, parce qu'on a tous nos petits matos à la maison. Et puis, bah, ça clique. Et puis après, tu veux continuer ?
Yeah.
Et puis après...
Yeah, I don't know. It was like
introduce yourself.
Oh, hi, I'm Emiliano Shermandi, aka DJ Fart in the Club. I like was just selling this mixer. Went into the elevator, and for like I think the point where we connected was like, oh shit, you mix vinyls. I mix vinyls as well, and it was like a point where I think I was mixing vinyls for 3 months at that point, maybe 5, and it was just like crazy to realize that someone else in the same building was doing the exact same thing that I was. And like when I walked into their apartment, it was like, oh shit, like same setup, vinyls everywhere, instruments in their room, like you could really see that they were like sort of like me. So we were like trying to link up and mix for like 4 months, but at this point, I was very busy. I couldn't, like, I don't know, it just didn't work out. But then after a few months, I ended up meeting up with Max, actually, and we mixed, and I don't know, it all just kind of, like, started to become what it is now. I was just sitting in our living room one day and like, I'll give you a bit of a backstory. Like before I met them, I started doing my own shit while they were doing Chassefesh. So when I moved here, I used to DJ Mexico, but like I barely started. Like I had 2 DJ gigs. Like I got paid like 100 pesos for one of those, which is like maybe less than $10. But my mom would always help me out. She was so nice. She's like, okay, it's okay. I'll give you the same thing that they paid. Like, okay. I was like, okay, thank you. I appreciate it. Yeah. And then I moved here and I was like, I went out to every bar. I was like, I want to get to know the night scene, the nightlife. I want to be in it. And then after a few months, I like would just started going to Dacha all the time. I love Dacha. I was there every Friday. I was there and like.
For those unfamiliar with Dacha, it is a nightclub and cocktail bar located in Mile End.
I met this guy who was gonna do an event called Groove Garden at Barbosa, and this was the first ever Groove Garden was at Barbosa, and it was to raise money for the fires in Australia. And I saw that it was, you know, going to be all the money that raised was going to go to the fire. So I was like, hey, you know, if you need a DJ, I'm down to do it for free for the cost. But I was like, I want a DJ somewhere. I wouldn't even paid for, like, at that point, I would have even paid for someone to let me DJ. Like, I wanted it so badly. And anyways, off of that event, everything, you know, started. Like, he's like, yeah, you're playing next event. And then COVID hit. And then we took like a hiatus for like 2 months, and then we started doing like DJ events outside. And I feel like that's where it really started to pick up, because people couldn't go out, but they wanted to.
Yeah.
And so these like illegal underground events were like the shit, you know, like people, like the first one we threw was at Mont Royal, and we just went there, like took like 2 hours to bring all the gear to the place. We rented a transformer so we could have energy and didn't have to plug into anywhere, because there's nowhere to plug in Mont Royal. And there's like a crowd that just goes there, you know, to look at the city. So when we started playing, like our friends were there, but then it just started to get crowdier and crowdier. And then there was this one point where the cops came. They were like, hey, like, you can't do this. And we're like, we're just like playing music. Like, like people are dancing. It's not my fault. And they're like, ah, it's okay. It's cool. Just like finish by nine. And we're like, okay, that's nice. And the cops even like stayed like far away for like a few minutes to listen to the music. They actually stayed the whole set. And by the end of the night, we like, they like came up and they were like, oh, what's your Instagram? What's your SoundCloud? That was so good. Like, and we were, I don't know, I just thought it was super funny. Yeah. It just started like spiraling into this like very big thing. And by this point, I like started hearing rumors about, you know, how someone involved in Group Garden was like, had like certain sexual accusations against him. Mm-hmm. And me and my family, my mom has always been like, I don't know, sexually abused, and my grandma too. So I took it, I don't know, I don't think it's something that should be taken lightly, especially in the like dancing, like nightclub underground scene, because there's not really like a way to regulate it. Mm-hmm. And it's all word of mouth. And you know, at this point I was like, I'd rather like part from this and let it be what it is. Like, I don't know if it's real or not, but I know I don't stand with it. So, and it was like such a weird moment, because exactly when I was like about to leave that, I was coming like into their life and like to these like new kids that were like doing this super cool shit as well. And they were like doing vinyls as well. And like, I don't know, I feel like this was like a whole transitional period for me from like, you know, getting to like very big and doing all these things, but like choosing to just like be with people that have a good heart and soul. And I feel like that's what I find with these guys. Like, I always tell my girlfriend, like, being with them, like, I feel like house music, especially since it started, it's always been about a feeling and about like how soulful it is. And if you're in a room or outside with 100 or 200 people, if the people there are good and they're happy and they're nice people, you're gonna have an amazing time. The music is like, it's all about love and connection and dancing and trying to like connect with the people, especially when you're behind the decks, right? You want to like, it's not just about making everyone dance and listening to hits and hear them scream. It's about trying to create this sort of wave that you're riding with like different styles of music. And I just think it's cool to like express what we have inside ourselves in terms of our music style, and then mix it all together into Fellas Q-Tips and then give it to people that like it.
After a while, I realized that these guys, they don't just listen and make sound. The music itself is present in every aspect of their lives. Until then, I had always thought mixing was something that was carefully prepared for, like an audio piece you would compose prior to an event. I thought they would play the parts they had meticulously laid out before. Turns out, that's not the case. For them anyway, most of the time, it's sheer improvisation.
After maybe 6 months of starting to buy records, I started to buy CDs and cassettes and realized how like there's like small worlds in each media format, and how like I've noticed that since I got here to Montreal and started DJing, after we kind of all started to pick up vinyls and started to do more and more vinyls and promote our shit as like, we are vinyl DJs, you know, I've just seen this like whole culture start to grow. And just people that we know, friends of friends, just like, they're buying vinyls now, they're half a turntable now. Like, I had my first pair of turntables cost me $200 for two turntables and that mixer that I sold, which is very, very cheap. And then, you know, I upgraded, and then like with the old turntables, I don't want to sell them. I just like, I gave them to my friends, because I think that's something that's very important, at least for me, but I think I can speak for all of us when I say this, is to look at our music in a physical way and not just the digital files, you know. Like, I think for all of us it's very important to like go somewhere or look at stuff and have it in your hand and realize that a lot of times the music isn't just about what you hear, and it's all about like a whole concept, and it's about, you know, what you see, what you can read, like you know, when you listen to Spotify music, you just know the name of the artist and the name of the song. But when you buy a record, you can see all the artists that were involved in the production of the record, the year it came out. Like, I mean, I know you can see the year also on Spotify, but there's like a bigger picture to, like, you know, my uncle runs a record label, and me and Matisse walked into his apartment the other day, and he was like about to ship his records, and he just like had like maybe like four, like a sticker, a news thing, and this other thing that he puts in the record that when someone opens it, it's like a gift, you know?
Yeah.
And like, I feel like, I don't know, I feel like we all kind of like want to promote our music that we produce in a physical way too, because it's like, it's a way to reach the artist, and we have kind of lost that touch with the artist. You know, you're on Spotify, you listen to it, and I love Spotify. I think it's the greatest thing, you know, you can listen to anything you want, like, by typing it. But I also think that by creating a physical object for your music, you also engage with the listener in a different way.
C'est ça, quand tu dis les gens, ils perdent ce contact, c'est un truc justement qui, nous, depuis qu'on a commencé à faire des... Enfin, n'importe quoi qui a un rapport avec la musique, ça a toujours été la motivation principale. Parce que c'est ça, en fait... Nous, on le sait pas parce qu'on est né dans une époque, et vraiment, on est les premiers de notre génération à être né dans un truc où, bah voilà, t'avais Internet. Alors que les gens qui sont nés peut-être allez 5-10 ans avant nous, ils ont quand même eu ce passage où t'avais, tu sais, un peu l'entre-deux,
ouais,
tu vois. Et puis,
et tout ça.
C'est ça, où t'avais encore un contact physique, que ce soit avec la musique ou avec plein d'autres trucs comme les photos. Là, il y a de plus en plus de personnes, pareil, qui reviennent à prendre un contact avec les choses en prenant des photos pellicules. Et c'est incroyable comparé à genre, même il y a juste 2 ans ou 3 ans. Personne prenait des photos pellicules, à moins que tu aies un projet pour l'école ou un truc comme ça. Mais maintenant, tout le monde a un petit appareil chez lui. Et puis les vinyles, pareil, ça revient. Et puis de la même façon que les CD, on voit que ça revient. Puis surtout avec le Covid, quoi. Avec le Covid, tout le monde est enfermé chez soi. T'as plus de contact, même avec les humains. Et puis, genre, c'est ça, nous, les vinyles, c'est un moyen aussi d'avoir des... quand t'aimes une musique... Et puis nous, on aime vraiment la musique du fond du cœur. Bah, quand t'as une musique qui te touche en particulier... Bah, t'as envie un peu de la toucher en retour et d'avoir ton vinyle dans les mains et de faire putain, elle est là, quoi. Genre, nous, il y a des fois, on a commandé des vinyles et puis tu le précommandes et puis t'attends. Et un jour, tu vois la notification sur ton Gmail comme quoi il est arrivé et là, t'ouvres le truc et t'es en extase. Genre, wow, tu regardes la pochette, t'as le peur de le toucher, tu le sors, t'es comme un fou, quoi. Enfin, tu sais, c'est un sentiment qui, justement, quand il y a un truc qui sort sur Spotify, c'est comme une vidéo sur Insta. C'est genre, t'écoutes 30 secondes. Puis au bout d'un moment, ça te fait chier. Tu fais quoi? Bah, tu vas retourner écouter la musique que t'écoutais il y a une semaine. Ouais, ou soit Tiesto, soit tu vas réécouter des gros classiques de rock ou de disco parce que c'est des classiques. Il y a une raison pour laquelle c'est des classiques, c'est parce qu'ils ont été hyper populaires. Et s'ils ont été hyper populaires, c'est parce que les gens, ils avaient ce contact aussi, mine de rien, avec la musique. Ou avant, quand t'étais fan de Led Zeppelin et que le dernier album de Led Zeppelin il sortait, tu faisais quoi? Tu prenais le bus, puis tu faisais 45 minutes de bus pour aller au magasin de vinyle. Et puis t'espérais qu'il y en ait encore en stock parce que tu le sais pas, parce qu'il y a aucun moyen de le savoir. Et après tu l'achètes avec l'argent que t'as fait au taf, et puis tu reviens et tu le regardes dans le bus, tu regardes la cover. Et tu sais, t'avais vraiment une expérience énorme avec la musique comparée à maintenant où vraiment c'est...
Ouais, ça prend 30 secondes.
C'est ça, c'est vas-y, je poste une story, yo, it's out, available now, link in bio, et puis tu cliques, t'écoutes, tu t'en branles. Enfin, tu vois, c'est genre la musique c'est tellement important, mais maintenant vraiment devenu une industrie à la fast fashion, quoi. Ou voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que maintenant t'as ce truc là on voit que comme Emmy disait, t'as plein de personnes qui se remettent à acheter des vinyles, et puis il y a plein de personnes qui se remettent à faire des photos pellicules, puis justement ces events là où il y a des choses qui sont plus authentiques et qui sont plus réelles, on voit que ça prend plus que d'autres trucs qui sont un peu banal, quoi, enfin des trucs un peu classiques. Et puis ce retour à l'authenticité, enfin c'est plus que nécessaire, c'est un peu vital pour la société, parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est l'opinion que j'ai, c'est que, enfin, on est tous dans la même merde, mais on est tous dans le même un peu paradis aussi, quoi. Et puis, c'est à toi de choisir où tu veux t'en aller, et puis, c'est avec, pour nous, notre petit paradis, c'est être derrière les platines et faire kiffer les gens. Et puis, que ce soit 20 personnes qui dansent, 400 personnes qui dansent, tu t'en fous. Tant qu'il y a un mec qui est venu, qui rentre chez lui plus heureux qu'il est rentré dans le bar, c'est le point principal de pourquoi on fait ça aussi, quoi.
Alors
organiser des soirées, surtout à Montréal, c'est hyper facile. T'as besoin de trouver une salle, t'appelles une salle, tu fais les trucs. Alors, c'est pas... du coup, la question, c'est pas, voilà... comment t'organises les trucs ou quoi, mais qu'est-ce que t'organises ? C'est quoi la soirée que tu veux faire ? Et vraiment, nous, c'est ça aussi qu'on aime dans nos soirées, c'est que, voilà, on réunit du monde, mais c'est pas... je sais pas, il y a vraiment quelque chose de chaleureux. Et tu vois, dans ce sens-là, où vraiment, bah, y a du contact entre les gens, et on... c'est pas juste rassembler des gens, créer un événement ou quoi, et je trouve que c'est ce qui fait vraiment la différence entre les soirées que j'aime et les soirées que j'aime pas. Parce qu'il y a des soirées où j'y vais, et tu sens vraiment que ça a été organisé sans vraiment fond, en fait. Genre, à l'inverse, il y a des soirées de personnes qui sont vraiment investies personnellement, et tu le sens, tu le sens. Et c'est cool parce qu'on continue d'en découvrir des endroits et des soirées comme ça aujourd'hui à Montréal. Et moi, c'est ce qui me manquait parce que quand on arrivait ici avec Mathis et qu'on avait donc l'histoire avec Mathis et moi, c'est que on allait tous les deux étudier en cinéma à l'université de Montréal. Et il a une grande sœur et j'ai une grande sœur. Et nos deux sœurs se connaissaient, elles étudiaient toutes les deux à HEC. Puis quand elles ont su qu'il y avait le petit frère qui venait étudier en cinéma, elles ont fait « Ah, mais vas-y, il faut qu'ils soient en coloc !» Boum, Mathis et Jérémy sont en coloc. Et après ça, du coup, nos sœurs, elles nous ont un peu montré, voilà, les soirées à Montréal, c'est quoi et tout ça. Et moi, je viens de l'île de La Réunion. Moi, à l'île de La Réunion, tous les clubs, c'est vraiment du gros mainstream. C'est que du dancehall, c'est que du reggaeton. Alors, j'ai rien contre, tu sais, c'est cool, moi, ça me faisait délirer. Mais j'allais en soirée, c'était second degré. Quand je suis arrivé ici, quand j'ai mis un pied dans le salon d'Ahomé, et là j'ai fait où ? L'ancien salon d'Ahomé, ouais, faut le préciser. Retour en 2017 quand j'arrive ici et je mets un pied dans ces soirées-là, je me dis pouah, en fait ouais c'est ça que je manquais et tout à La Réunion. Et avec Mathis à ce moment-là, c'est vraiment devenu une chasse aux soirées. Tu sais, comme on disait tout à l'heure quand on a rencontré Chasse et Pêche, on était trop excités parce que vas-y c'était une nouvelle soirée et tout ça. Ben il y avait, et gros shout-out, j'espère qu'il écoutera ce truc-là, Jack George, qui organisait les Disco Troopers. Ouais. Pour moi, c'était le peak time de la nightlife à Montréal. Alors, ça fait pas des années que je suis ici, hein, mais en l'espace de 5 ans, bah, vraiment, c'est les meilleures soirées que j'ai eues. C'est les meilleures soirées que j'ai eues parce que c'était du vrai underground. Et c'était n'importe quel style. En plein milieu de la nuit, à 4h du matin, t'as du gros disco qui joue. C'est pas là le problème. Genre, vraiment, c'était... Et ça, c'est grâce à ces soirées-là, les Disco Troopers, que on a été éblouis et submergés par cette émotion-là et ce côté magique du underground, où vraiment c'est vrai, c'est vraiment des soirées vraies, c'est pas des soirées pour t'épater, c'est pas des soirées pour t'en mettre plein la gueule, parce que ça se passe dans des caves avec le minimum de light possible. Ok, bon, le sound system, faut qu'il tue, ça c'est important, faut que la musique elle soit lourde, la musique faut qu'elle soit forte et tout ça, mais... Il y avait vraiment ce côté-là, comment dire, un peu rustique, où on fait avec les moyens du bord, et ça fait vraiment très authentique. Bah, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est vraiment bien entendus tous les quatre, et ça, c'était Max qui me le disait il y a quelques jours, ou peut-être une semaine, c'était que même si on a chacun voilà, nos appréciations différentes de la musique, je veux dire par là, tu sais, chacun son style, on a tous cette manière d'aimer la musique du fond du cœur. Et c'est ça qui est important pour nous. Et je trouve que c'est ça qui nous unit. Et je sais pas, c'est cool. Moi, je suis content de vous avoir rencontré, les boys. Hein. Je le dis au mic. Shout out to the fellas. Bref.
I don't know. I feel like something that's very cool for me that we do together is that we're not, we try not to like constrict ourselves into one genre. And it's like, you know, I feel like DJing is really, really a lot about what you bring to the dance floor in terms of what are people learning? What are you showing them? Are they hearing what they could hear on the radio? Are they hearing songs that could listen on Spotify? Are they listening to a record that's $200 and they can't buy or listen on YouTube? Not saying that an expensive record is what you should listen to, but more meaning like, even just like, I'm so happy to see all these like new DJs that are spinning vinyl because I know that the quality of the music in our culture in Montreal will just grow because a lot of artists nowadays that, you know, maybe aren't just Spotify artists and release their music physically, it's because they want to be in touch with people and like, and it's crazy how many artists nowadays survive off of like Bandcamp buying or like selling their records or like what I aspire to do is like one day just have my record press, and then, you know, if they come to an underground party with throw or to like a small bar like Barbosa, I want to like maybe put a stand with like five records there, and it's like, hey guys, like, you know, I'm DJing tonight, if you want to buy my record or my album, it's here, like, here it is, you know. It's not like, here's the link.
I just want to add something to what Emiliano was saying earlier about sharing that feeling that we get when we go looking for our music that we want to play for people. Because when we go to all these stores, you know, shout out to La Rama Records, shout out to Fan de Vinyl is where we always, it's our, yeah, Hamish Bliss, big influence to us as well. And we basically live in these places, honestly. It's our second home. And when we're digging, it's always, it's not competition between us, but there's this always beautiful feeling of who can find the craziest thing first and then show it off to your friends. Or be like, or, you know, it's that feeling of I'm looking through this section and then I find something where I know the guys know it. You hold it up and you shout to them across the room and they're like, oh, you know, they're like, it's a little bit of jealousy hitting you, a little bit of so many emotions. And then you bring it over to the turntable, and then that's the thing. It's that you're picking up the needle, and is it going to be a crazy one? Is it going to not be a crazy one? You never know. It's a whole roller coaster. And Jeremy and I were talking about this, and what really separates us is when we put the needle down in the first millisecond, 10 seconds less, we already know if the song is good, we already know if it's our style, we already know if it's a crowd pleaser. We just have that instinctual feeling for it that we've been developing. And going back, it's putting that needle on, and if the music is magic and we have that feeling and it's only us in the headphones, our friends don't even know we're listening to this right now, and we just know, okay, I'm gonna bring this to the dance floor on Friday, and people are gonna hopefully have that exact same feeling that I had when I put the needle on there, and boom, it's a song that I've never heard before, and it's a crazy one.
Ça, les white labels, c'est des vinyles qui sont vraiment un white. C'est le macaron, le sticker qui est blanc. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. En fait, la plupart du temps, les white labels, c'est des vinyles qui ont des samples, donc des échantillons de musique disco ou autre. Mais pour avoir les droits d'un sample, il faut payer soit 100 000 dollars, soit avoir 1% de tes revenus sur un vinyle. Et donc, ce qu'ils faisaient à l'époque, il y avait tellement de house qui sortait, parce que c'est l'époque où les home studios, c'est devenu à peu près abordable. Bah, il y avait tout le monde qui faisait de la musique, mais tout le monde. Et ça fait que tout le monde prenait des samples, parce que c'est une recette super facile pour faire de la musique. C'est, tu prends une boîte à rythme et tu mets un sample de disco, puis il y a des milliers de chansons qui ont été faites comme ça. Mais vu qu'ils n'avaient pas les droits ou pas l'argent ou pour d'autres raisons, bah en fait ils sortaient juste le vinyle sans nom, sans rien, sans aucun moyen d'identifier d'où ça vient. Et en fait c'était un peu comme la contrebande du vinyle, quoi. Ouais. Genre c'était illégal de faire ça, mais ils envoyaient 50 copies autour du monde à certains DJs. Puis s'il y en a un qui le jouait à Miami dans un club et que les gens pétaient un plomb, bah yo mec je te rappelle, puis on en presse 2000, puis là bah vas-y on essaie de clearer le sample, donc d'avoir les droits. Et puis de faire un truc légal et qui fait de l'argent, quoi. Et puis, c'est marrant aussi ce truc de white label, c'est que c'est vraiment aussi comme chercher une aiguille dans une botte de foin des fois, parce que t'as... Quand on parlait de DJ Bliss, c'est un gars qui faisait... qui mixait beaucoup de break et de trucs un peu... qui viennent d'Angleterre à l'époque, dans les 90s à Montréal. Et ce mec-là, en fait, c'est un collectionneur mais fou de vinyle. C'est-à-dire que on a rencontré ce mec par hasard dans un magasin de vinyle qui nous a dit qu'il vendait des musiques. Il nous a invités chez lui et nous, on s'attendait à rien. On est arrivé chez un mec, un appart en centre-ville, qui littéralement est rempli, mais plein à craquer de vinyle. C'est-à-dire que le mec, son matelas est posé sur des vinyles. C'est les murs entiers, il doit perdre 10 mètres carrés parce qu'il y a des murs mais de vinyle. Mais c'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant. C'est ça, tous les placards. Ouais, c'est à Montréal, genre le gars il est encore là.
C'est dans son appart, il nous dit il a encore une plus grosse collection.
C'est vraiment, nous on est rentré dans un truc où vraiment on s'est rendu compte à quel point un DJ à l'époque, bah en fait il mixait que sur vinyle. Et puis son moyen de gagner de l'argent et son moyen de vivre, enfin d'exercer sa passion, c'était d'avoir de la wax, quoi. Et puis nous on est arrivé dans ce truc là et on a juste pété un pont, parce que quoi, on a quoi, là la maison doit avoir 500-600 vinyles cumulés. Et pour nous, on était en mode, oh putain, c'est énorme. Mais là, t'arrives dans un truc où le mec, vraiment, il dort sur des vinyles, quoi. Genre, tous les placards de la cuisine, il y a une bouteille de ketchup. Mais c'est vraiment ça, c'est pas une blague. T'ouvres, il y a peut-être 10 placards. Il y a un placard où il y a une bouteille de ketchup au milieu, à moitié entamée, toute dégueulasse, et le reste, c'est des vinyles. Et t'ouvres les chiottes, il y a des vinyles dans les chiottes, il y a des vinyles dans les placards, il y a des CD à droite, des cassettes à gauche. C'est un truc de malade mental. Et il y a vraiment ce truc-là où, bah voilà, là, t'es avec un mec qui mixait dans les années 90 et qui connaît absolument tout de l'époque et qui te fait « Ouais, bah tiens, j'ai ça, ouais, bah tiens, j'ai ça, ouais, bah tiens, j'ai ça. » Et toi, t'écoutes et tu pètes un pont parce que le mec, il y avait tellement de musique qui sortait que le gars, il te sort des pépites. Mais c'est là où tu vois aussi un truc qui est différent dans les générations, c'est que bah, ce gars-là, il a baigné là-dedans. Enfin, c'est, pour nous, c'est un peu… Il y a toujours cette magie du vinyle où, comme Max, il dit, quand tu poses ton aiguille, rien que le fait de se dire « Putain, c'est du plastique. » Et il y a du son, et tu sais, c'est il y a un truc magique. Et nous, on a encore, même si ça fait des années qu'on a écouté des dizaines de milliers de vinyles, bah, il y a toujours ce petit sentiment de c'est différent.
So, since Emmy's not here, I just want to talk about the direction of Fellas Q-Tips. You know, we only just started out and we don't really ever sit down and talk administrative stuff about Phyllis Q-Tips.
Good thing I'm here, so you can all consult.
Yeah, exactly. This is really the first time that we're kind of sitting down and just talking about Phyllis Q-Tips, because we don't do it ourselves. We work off instinct, us four, and we're just going to stick with that in the future. You know, we're Emmy and I were planning this summer to go represent the collective in a Mexico tour. We want to just play our music, get our name out there, and you know, Montreal is our home base, but you know, moving out to Mexico is just a dream, to be able to live in a car for a month with your vinyls and DJ in random clubs. So we just want to keep it as authentic as we can and down to the heart as we can, and that's the real direction for Fellas, is just remaining a small crew and doing what really from 1985 to what I would say maximum 2000, what, like 2008, when the real house was booming, that real Chicago house, real underground stuff, is what we want to keep going. Because I feel like humans, we move too fast with trends. From 85 to, for that real house life, I feel like it just left too quickly. People wanted to move on to other genres too fast. And that's what we're trying to do, is hold on to that rope and bring it back into a little bit into the foreground rather than the background, you know.
All four of them come from different places. Max is from Philippines, Mathis is from Annecy, an Alpine town in the southeast of France. Jeremy grew up on the island of Réunion, and Emiliano is from Mexico. I asked them how these cultures, these countries, might have shaped their experiences of nightlife, partying, and music.
Pour vous, c'est quoi qui fait que Montréal has a distinct kind of nightlife compared to... Because you were à La Réunion avant, toi t'étais au Mexique, Singapore. You were... Oh, me too. You were in Singapore, et toi t'étais...
Annecy.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que Montréal is distinct compared to... For you guys anyway, from what you've seen, from your experience.
Je trouve qu'à Montréal, c'est vraiment un peu comme un playground, comme un terrain de jeu, tu vois. Parce que, comme je disais tout à l'heure, vraiment, si tu veux organiser une soirée, bah, man, va falloir juste que tu cherches une salle, que tu dépenses un peu d'argent dans cette salle. Pareil, que tu trouves des DJ, ou alors que tu apprennes à mixer toi-même. Puis à partir de ce moment-là où tu as une salle et du son, bah, tu peux organiser une soirée. Après, c'est... Non, ça dépend quelle soirée. Tu sais, genre, quand on organisait les Jackstorm avec Matisse, on gagnait un petit peu d'argent, mais on le claquait dans le brunch direct le lendemain. Genre vraiment, c'était le truc. Ouais, maintenant on va être plutôt comme ça, tu vois. On va essayer d'économiser l'argent et le dépenser dans les vinyls, mais non, on fait pas trop d'argent avec ça, et puis c'est pas forcément le but, tu sais. Mais c'est ça que, ouais, c'est ça, je trouve, qui est... Après, je sais pas, parce que voilà, j'ai pas vécu ailleurs. J'ai vécu que à La Réunion et Montréal, mais je trouve qu'il y a vraiment cet esprit un peu récréatif à Montréal, où voilà, c'est un peu, tu peux facilement aller chercher les ressources nécessaires pour créer une soirée. Ça, c'est cool, parce que du coup, il y a plein de choses qui se passent.
Ouais, c'est ça. Moi, en venant d'Annecy, vraiment, il y a un bar à chicha et deux boîtes, et puis et c'est vraiment pas une blague, genre, t'as l'impression d'aller au casino, quoi.
Well, I grew up in Singapore for 18 years of my life, and the nightlife in Singapore is the definition of superficial. It's very actually interesting now with hindsight to come to Montreal and see, you know, like, not a reproduction of something, but see the original face of it. You know, you come to Montreal and it's these DJs that have been doing it for so long, but Singapore is only 50 years old and the music scene is only less than 20 years old. Like, it's just all very superficial because they don't know what they're doing. They don't have authentic bloodline of DJs who can just share amazing music. And in Singapore, I just, as I said, I never went clubbing a lot when I was younger because of the fact, like, when I went there, it's like $30 entry into the club, $30 shots. The music is literally... Yeah, the music is literally just dubstep music. It's a very social status environment of, do you have a table? Do you have a bottle? Do you have, you know, 100 people around you? Are you the one who's friends with the promoter? It's like such a small little political world compared to when you come here, and it's not about politics at all. It's just about having fun. So biggest change of my life was moving away from Singapore. It's an eye-opener.
Mais... I'd like to touch the mic. I touch le mic, man.
Oops. Yeah, so in Mexico, I had like when I started to go, same thing, don't want to repeat it too much, but you know, the clubs, as you go, listen to top 20 radio songs and reggaeton. And you know, it was fun for maybe 1 or 2 years because I get blackout drunk, and you know, it's not super expensive there, and I was very used to like I... Maybe since I was 16 to like maybe 18, 17 before I came here, I 90% of the time I would go out, I would be at a table with bottles with my friends. It's very sad, you know, and I come from a very small town, so there wasn't a lot of options of where to go to. And I don't want to generalize saying that in Mexico, that's all it is, because I know now that I'm here, which is funny. Now that I discovered this scene, I was able to discover this other underground DJing scene that's happening in Mexico now and the whole movement. And I think it's cool to like compare how like here in a first world country, you know, people with minimum wage can, you know, maybe, I know it's not enough to support someone to live adequately, but compared to minimum wage in Mexico, it is pretty good. And I feel like that's also what allows artists here to like explore themselves more as an artist and less to try and conform to what makes money. Because in Mexico, it's hard to even support your art getting a minimum wage job. You know, I feel like here there's that big outreach because people can afford a cheap synth or this after a few weeks of work. You know, the people that did that there really risk their lives. Yeah. If you're doing that there, it's because that's all you want to do, you know? And I don't know, just put a lot of things into perspective.
Mais ouais, c'est ça, comme il dit Max, ici c'est un peu vraiment le contraire, l'opposé de fou, de... un peu de là partout d'où on vient chacun. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on adore cette ville et puis surtout le milieu de la nuit, parce qu'en fait, en étant étudiant ici dans la vingtaine, bah forcément tu fais quoi, le soir tu sors, le week-end tu sors, et puis c'est une grande ville Montréal, et puis ça a une énorme diversité. Déjà Montréal en elle-même, mais aussi rien que dans le milieu de la nuit, il y a tous les genres qui jouent, il y a tous les types de soirées tout le temps, il y a tout le temps des événements, le même soir tu peux avoir 10 événements en même temps et tu connais tous les DJ qui mixent ou tous les collectifs, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu as une diversité incroyable et que bah voilà, pour la plupart des gens aussi, mine de rien, ils font aussi les choses de façon, bah voilà, par amour pour la musique, par amour pour faire danser les gens. Et c'est ce qui est bien avec Montréal, c'est que moi, j'ai des amis qui sont venus d'Annecy où vraiment il y a zéro club qui joue de la house, ou zéro club comme on peut retrouver ici, comme bah, le Barbossa ou comme le Dacha, ou des choses comme ça qui sont des petits clubs, quoi, mais qui ont des DJ qui savent ce qu'ils font. Et quand ils sont venus ici, je les ai emmenés dans ces clubs-là et vraiment ils ont fait, mais waouh, putain, mais pourquoi ça n'existe pas là où j'habite, quoi? Pourquoi il n'y a pas des trucs comme Montréal là où j'habite? Parce que Parce que c'est ça en fait la fête. C'est pas genre aller là-bas, se pointer en chemise, costard, et puis prendre des verres à 20 balles le verre, et puis prendre des stories toutes les 5 secondes pour montrer que t'as ta... Enfin, c'est juste... Après c'est normal, c'est pareil, c'est une façon de vivre, c'est des mentalités. Tu vois, et j'ai l'impression que tous les gens qui viennent à Montréal, ils se rendent compte vraiment que le milieu de la nuit d'ici, il est vraiment différent de plein d'autres endroits, et qu'il est très unique surtout. Qu'il y a une ambiance vraiment très spéciale, et qui est très... un peu à l'image du Québec en général, où c'est super amical, c'est super voilà, petit groupe, et puis voilà, bah, dans tous les cas il y a des super artistes dans tous les styles qui essayent ou pas de se faire un nom, mais qui juste sont là pour la musique, quoi.
Mais voilà, il y a vraiment ce côté là où c'est accessible, la nightlife, alors que j'ai pas l'impression que ça soit la même chose ni à La Réunion, ni au Mexique, ni à Annecy, ou encore moins à Singapour.
Fellas Q-tips, right now that's what it is.
I have my final answer, 5 words.
Lock it in, are you locking it in?
Locking it in. It's all about the feeling.
This was the first out of a series of episodes about what goes down after dusk, brought to you by Elena for CKUT Radio. A big thanks again to Emiliano Chamandi, Jérémy Trey, Max Maja, Mathis Moretti, and Spencer Gilly. I'd like to add that the soundtrack of this episode was produced by Mathis, Max, and Emiliano. Thank you so much for listening, see you around, and take it easy, everybody.
CKUT. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. CKUT 90.3. Take it from me. It's the best, beats the rest. 90.3 CKUT.
MuTech Montreal, the most important festival for digital creativity and electronic music in North America, returns for its 23rd edition at Quartier de Spectacle. From Tuesday, August 23rd to Sunday, August 28th, vibe to the rhythm of more than 100 local and international artists such as Caterina Barbieri, Coro Novoa, Koreatown Acid, Luke Slater, Max Cooper, and Nicola Cruz. MuTech also has a program dedicated to professionals with its MuTech Forum and Market, which consists of 4 days of exchanges and events centered around digital creation. The complete program and tickets are now available at a preferential rate at montreal.mutech.org. This is a CKUT co-presentation.
Are you a tenant in Montreal? Do you have questions about your rights? Your local housing committee can help. To find the Housing Committee for your neighborhood or for more resources, go to www.rclalq.qc.ca.
Thanks to everyone who donated to CKUT's annual funding drive. Your generosity truly helps keep our engines burning. It's never too late to donate. You can do so by calling 514-907-9424 or going to ckut.ca and hit the green Make a Pledge button at the top. All paid entries will be entered into a grand prize draw. You can pay your pledge and pick up your gift weekdays between 11 to 6 p.m. or by appointments. Call 514-907-9424. Thank you.
We'll be right back.
You already know what it is.
What it is,
ladies and gentlemen, in the city of Montreal and worldwide, if you're tuned in online. My name is Jason Alexander. I'm here with Colin Hassel on the drums and, of course, Rossi Ross on the mix. We are THT Entertainment, and this is Whose Vibe Is It Anyways on CKUT 90.3. We are back from week to week, working like dogs to bring you some of the best Canadian content you've never heard of. But this week, we're coming at you with the World Skip Edition.
World skipping on through the studio onto the airwaves, Montreal. We're happy to be back in the city on the air once again. Shout out to CKUT 90.3 for having us on once again. And Jason did just say this is the World Skip, so we're about to do a little traveling today within the confines of wherever your radio happens to exist. So you know what? For now, I think we should just get right to it. What do you think, brother?
100%. This is our opportunity to share with you some of the best worldwide songs that we are able to find, put together in just